Ptolémée gagne.
Ptolémée, cette nuit-là, ne dormit pour ainsi dire pas. Marigny aura-t-il averti son frère, se demandait-il, et l'archevêque lui aura-t-il avoué ce qu'il a laissé en mes mains? Ne vont-ils pas se hâter d'obtenir dans la nuit le sein du roi afin de me devancer, ou bien ne vont-ils pas se concerter pour m'assassiner? Se retournant dans son insomnie, Ptolémée pensait avec amertume à sa seconde patrie, qu'il considérait avoir si bien servi de son travail et de son argent. Parce qu'il s'y était enrichi, il tenait à la France plus qu'à sa Toscane natale et l'aimait vraiment à sa manière. Ne plus sentir sous ses semelles le pavé de la rue des Lombards, ne plus entendre à midi le bourdon de Notre-Dame, ne plus respirer l'odeur de la Seine, ne plus se rendre aux réunions du parloir aux bourgeois, tous ces renoncements lui déchiraient le cœur. Aller recommencer une fortune ailleurs, à mon âge, si encore on me laissait la vie pour recommencer. Il ne s'assoupit qu'avec l'aube, pour être bientôt réveillé par des coups de heurtoir et des bruits de pas dans sa cour. Il crut qu'on venait l'arrêter, et se jeta dans ses vêtements. Un valet tout effaré parut. « Monseigneur, l'archevêque est en bas, dit-il. » « Qui l'accompagne ?»« 4 serviteurs en froc, mais qui ressemblent plus à des sergents de prévôté qu'à des clercs de chapitre. » Ptolémée fit une moue. « Ôte les volets de mon cabinet, dit-il. » Monseigneur Jean de Marigny montait déjà l'escalier. Ptolémée l'attendit, debout sur le palier. Mince, une croix d'or lui battant la poitrine, l'archevêque affronta aussitôt le banquier. « Que veut dire, messieurs, cet étrange message que mon frère m'a fait tenir dans la soirée ?» Ptolémée éleva ses mains grasses et pointues d'un geste apaisant.
« Rien qui vous doive troubler, monseigneur, ni qui méritait votre dérangement. Je me serais rendu à votre convenance au palais épiscopal. Voulez-vous entrer dans mon cabinet ?»
Le valet achevait de décrocher les volets intérieurs, ornementés de peinture. Il mit du bois menu sur les braises du foyer, et bientôt des flammes montèrent avec un pétillement. Ptolémée avança un siège à son visiteur.
« Vous êtes venu en compagnie, monseigneur, dit-il. Était-ce bien utile? N'avez-vous point confiance en moi? Pensez-vous courir ici quelque péril? Vous m'aviez, je dois dire, habitué à d'autres manières. »
Sa voix s'efforçait d'être cordiale, mais son accent toscan était plus prononcé que de coutume. Jean de Marigny s'assit en face du feu vers lequel il tendit sa main baguée.
« Cet homme-là n'est pas sûr de lui, ne sait pas comment me prendre, » pensa Ptolémée. « Il arrive avec un grand fracas, comme s'il allait tout briser, et puis maintenant il se regarde les ongles.
« Votre hâte à me voir m'a donné sujet d'inquiétude, » dit enfin l'archevêque. « J'aurais préféré choisir le temps de ma visite. »
« Mais vous l'avez choisi, monseigneur, vous l'avez choisi. »
« Vous vous rappelez avoir reçu de moi 2000 livres en avance sur des articles fort précieux qui provenaient des biens du temple et que vous m'avez confiés à la vente. « Ont-ils été vendus ? » demanda l'archevêque.
« En partie, monseigneur, en bonne partie. Ils ont été envoyés hors de France, comme nous en étions convenus, puisque nous ne pouvions les écouler ici. J'attends l'avis de comte, j'espère qu'il y aura dessus argent à vous revenir. »
Ptolémée, son gros corps bien campé, les mains croisées sur le ventre, hochait la tête avec bonhomie. « La décharge que je vous ai signée ne vous est donc plus nécessaire, » dit Jean de Marigny. Il cachait son inquiétude, mais il la cachait mal.
« N'avez-vous pas froid, monseigneur ? Vous avez le visage bien blanc, »
dit Ptolémée qui se baissa pour mettre une bûche dans le feu. Puis, comme s'il avait oublié la question posée par l'archevêque, il reprit
« Que pensez-vous, monseigneur, de la question dont on a cette semaine débattu en conseil ? Est-il possible qu'on projette de nous voler nos biens, de nous réduire à la misère, à l'exil, à la mort ?»«
Je n'ai pas d'avis, » dit l'archevêque. « Ce sont affaires du royaume. »
Ptolémée secoua le front. « J'ai transmis hier à monseigneur le coadjuteur une proposition dont il ne me semble pas qu'il ait bien aperçu l'avantage. C'est regrettable. On se dispose à nous spolier parce que le royaume est à court de monnaie. Or, nous offrons de servir le royaume par un prêt énorme, monseigneur. Et votre frère reste muet. Ne vous en a-t-il point touché mot? C'est regrettable, bien regrettable, en vérité. »
Jean de Marigny se déplaça un peu sur son siège. « Je n'ai pas titre à discuter les décisions du roi, » dit-il.
« Ce ne sont point encore décisions, » répliqua Ptolémée. « Ne pouvez-vous remontrer aux coadjuteurs que les Lombards, sommés de donner leur vie, qui est tout au roi, croyez-le, et leur or, qui est à lui tout également, voudraient, s'il se peut, garder la vie. J'entends par la vie leur droit à demeurer en ce royaume. Ils offrent l'or de bon gré alors qu'on le leur veut prendre de force. Pourquoi ne pas les entendre? C'est à cette fin, monseigneur, que je souhaitais vous voir. »
Un silence se fit. Jean de Marigny, immobile, semblait regarder au-delà des murs.